Europe 1.
Votre invité, Sonia Mabrouk, est à la fois historien, éditeur, documentariste, théologien. Vaste savoir.
Et auteur de ce livre, La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion en Europe, chez Albin Michel. Bonjour à vous, Jean-François Colosimo.
Bonjour.
Nous allons évidemment évoquer ce livre qui pose la question majeure d'où vient ce conflit. Mais tout d'abord, la question ce matin, c'est d'où viennent les sabotages des gazoducs Nord Stream. Quand on pose cette question, il faut poser la question aussi, quels intérêts cela sert-il?
Oui, alors évidemment, on a très envie de désigner Moscou et la Russie. Pourquoi ? Parce que le chantage de Poutine est total et il est d'abord énergétique. Cette guerre, c'est aussi une guerre de l'énergie. Il y a le pétrole, il y a le gaz et il y a les grandes voies, en fait, aussi pour acheminer ces énergies. Vous voyez, quand il s'est emparé, il y a déjà longtemps, de la Géorgie, la Géorgie, toute la question du Caucase, c'est la question des pipelines, là encore. Donc on a affaire vraiment à une sorte de grand Kriegsspiel planétaire. Maintenant, il faut noter que les États-Unis, pour l'instant, ne confirment pas que ce sabotage serait russe. Or, on sait leur capacité satellitaire d'observation, etc. À qui profite ce crime? C'est bien la question. Mais nous voyons que notre hiver risque d'être encore peut-être plus rude que ce que nous pensions.
Et précisons que pour réaliser un tel sabotage, il est évident qu'il faut une très grande technicité, une très grande expérience. Ce n'est pas une simple manœuvre de sabotage.
Non, c'est pas trois sympathiques dissidents et contestataires qui sont allés percer un tuyau. C'est une véritable opération militaire, hautement technique, vous l'avez dit, et donc qui engage la responsabilité d'un État, lequel peut être la Russie, vraisemblablement la Russie, mais encore une fois, ce que nous avons appris, c'est qu'avec le Kremlin de Vladimir Poutine, nous devons nous attendre à tout.
Alors, nous attendre à tout, et cela signifie, Jean-François Colosimo, qu'il faut qu'on comprenne d'où vient ce conflit. C'est vraiment l'enjeu de votre livre, je disais tout à l'heure à Dimitri Orantane, un livre majeur, parce qu'il nous explique en réalité que ce conflit suit toute l'histoire de l'Europe, c'est-à-dire...
Alors, écoutez, pour aller très très vite, l'Empire romain se divise en deux, il y a les invasions barbares, et puis il y a deux réalités qui naissent, une Europe orientale, une Europe occidentale, vers le 9e siècle, le sacre de Charlemagne, quand d'un coup, cet Occident qui a été malmené par les barbares ressort avec une nouvelle réalité spirituelle, religieuse, politique, et qui se met en concurrence avec Constantinople, aujourd'hui Istanbul, mais c'est l'Empire romain d'Orient, eh bien les missionnaires byzantins et carolingiens, ils s'affrontent pour conquérir les Slaves, pour les évangéliser, et leur ligne de choc, leur ligne de front, eh bien elle va courir de Split, de là-haut, de Riga, les Pays-Baltes, sur la Baltique, à Split, aujourd'hui en Croatie, la Méditerranée, elle zigzague, elle sépare les Polonais et les Biélorusses, elle sépare les Croates et les Serbes, pourtant c'est le même peuple. D'un côté, vous avez la confession catholique et l'alphabet latin, de l'autre, la confession orthodoxe et l'alphabet cyrillique. Ce sont deux univers, les ans et cette ligne, elle traverse l'Ukraine, la coupe en deux, et vous avez un ouest catholique et un est orthodoxe, Kiev au milieu, l'Ukraine intériorise le drame européen, parce que sur cette ligne, tous les grands empires sont venus s'affronter, c'est bien ce qu'il faut comprendre, et en plus, les populations qui sont de chaque côté de cette ligne, eh ben, elles ont valsé, un coup c'était l'Empire russe, il fallait qu'elle soit orthodoxe, un coup c'était l'Empire austro-hongrois, il fallait qu'elle soit catholique, un coup c'était la Prusse, il fallait qu'elle soit protestante.
Quel pays particulier quand même, Jean-François Colosimo, que l'Ukraine, vous écrivez que ce pays a servi d'arène à la confrontation des trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, et aussi entre les trois confessions chrétiennes, orthodoxes, catholiques et protestantes. C'est explosif en réalité.
C'est explosif, ça n'a pas arrêté d'exploser, c'est pour ça que si on veut faire l'histoire politique de l'Ukraine, des gens vont dire, mais enfin bon, il y a eu une principauté au XIIe siècle, puis ça disparaît des radars, et puis ça réapparaît vers le 19e siècle avec les nationalismes européens, le romantisme des peuples. Donc votre Ukraine n'existe pas. Mais bien sûr qu'elle existe, parce que si vous faites l'histoire religieuse au lieu de faire l'histoire politique, alors vous voyez qu'il y a une entité qui, sur des siècles, cherche son indépendance. Son problème, c'est quoi? C'est qu'elle cherche une indépendance nationale et qu'elle est au milieu des empires, n'est-ce pas? Et particulièrement avec cet empire russe qui a besoin de cette ville, Kiev, parce que la Russie, elle est orthodoxe, mais ça s'est pas passé à Moscou, ça s'est passé là-bas. Et il y a donc une espèce de dimension d'appropriation symbolique qui va être constante et qui débouche sur le drame d'aujourd'hui, en sachant que les Ukrainiens sont à 70% orthodoxes, mais qui sont divisés entre ceux qui veulent encore être avec Moscou, ils sont de moins en moins nombreux. Et ceux qui voulaient avoir leur propre église pour affirmer quoi ? Ben, le fait qu'ils ne sont pas soumis. Donc, vous voyez, à partir de 1991, vous avez une espèce d'angoisse impériale de la Russie qui se voit diminuer, et vous avez une espèce d'angoisse nationale de l'Ukraine qui veut exister.
Cette lecture nous éclaire sur aujourd'hui, Jean-François Colosimo. Vous avez paré de ceux qui restent pro-russes, il y en a, ils ne sont pas nombreux, vous le dites. Ça éclaire aussi l'actualité sur les résultats des référendums d'annexion, avec des résultats en moyenne autour de 90%, oserais-je dire des résultats soviétiques, des référendums qualifiés de mascarade par l'Occident. Et après, à part menacer de sanctions, que va-t-on faire pour ces territoires ?
Alors, le problème d'abord, c'est que ces territoires, contrairement au pari qu'avait fait Vladimir Poutine, puisque en fait il a incendié ces territoires depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée, n'est-ce pas ? Mais c'est tout le problème de Poutine, c'est qu'il a confié le boulot à des satrapes locaux, des mafieux, etc. Et en fait, quand les troupes russes arrivent en 2022, elles trouvent des populations qui sont complètement harassées d'avoir été soumises aux raquettes, je plaisante pas, d'avoir vu leurs filles violée par des soudards, enfin, etc. Donc il y a un rejet, contrairement à ce qu'il pense, c'est là où échoue son opération spéciale, arriver en trois jours à Kiev et changer le régime. Ces populations, aujourd'hui, elles se veulent ukrainiennes. Pourquoi ? Parce qu'elles ne veulent pas vivre sous Poutine. Elles voient ce qui se passe, en plus, depuis le début de la guerre sous Poutine. Une opposition en prison ou en exil, l'élimination des opposants, et puis il y a cette promesse européenne. Donc là-dessus, il a complètement perdu. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ce référendum de manière précipitée ? Mais parce qu'il veut intégrer, parce qu'il est toujours dans la fiction juridique. Donc, il veut montrer à l'Occident que lui aussi est occidental, même il détourne tout, juste, il veut annexer, parce qu'une fois que le Donbass sera russe, alors les troupes ukrainiennes seront des troupes d'agression, dans son esprit, et il pourra répliquer au maximum.
Voilà pour la fiction de Vladimir Poutine, mais n'y a-t-il pas, et je vous pose la question, une fiction, en tout cas une volonté de la part des Occidentaux de voir un Poutine presque perdant, acculé, très affaibli, et dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir un grand animal blessé qui peut devenir encore plus irrationnel qu'aujourd'hui ?
Je crois que, d'abord, on a toujours un peu sous-estimé que oui, Poutine pourrait être remplacé, mais il pourrait être remplacé par pire que lui. Est-ce que c'est possible ? Oui, tout à fait. Il y a autour de lui, dans les services, dans l'état-major, etc., des gens qui n'ont même pas son expérience internationale et qui sont véritablement sur une espèce de pulsion identitaire et belliciste.
Jean-François Colosimo, ceux qui disent aujourd'hui il faut penser à l'après-Poutine ne se rendent pas compte qu'il peut y avoir pire que Poutine.
Bien sûr. Bien sûr, parce que la société russe, malheureusement, n'est pas mûre. C'est une société qui n'a jamais connu la démocratie, au sein de laquelle commençaient à émerger des classes moyennes à Moscou, à Pétersbourg. On les a vus défiler souvent, on les a vus manifester. Aujourd'hui, cette population, elle vit dans la terreur. Soit les jeunes sont partis, on l'a dit, ils sont au Kazakhstan, etc. Le pays est en train de se vider de toutes ses forces vives, n'est-ce pas ? C'est un des résultats de la politique de Poutine, mais soit ils sont en prison. Regardez Navalny. Navalny, lorsque, après la tentative d'empoisonnement, pourquoi il ne reste pas en Allemagne ? Ça, c'est très russe. Non, il faut qu'il rentre dans son pays, n'est-ce pas ? Parce que les Russes, c'est comme ça. Bon, il sait qu'il rentre pour un martyr, pour être supplicié. Aucune importance. Donc, paradoxalement, je voudrais dire qu'il y a Poutine et qu'il y a des tas de Russes, ça on ne veut pas le voir, qui nous donnent une leçon d'endurance dans le désir de démocratie. Et c'est ce pays de contraste, vous avez les
une
deux.
Une leçon donnée, c'est intéressant ce que vous dites, on l'entend très rarement. Leçon qui est donnée aujourd'hui, du côté russe.
Mais enfin, je veux dire, hier encore, Artyom Gamarin, un poète, un poète pas très connu, il est allé déclamer sur le YouTube russe une déclaration pacifiste. 31 ans, la police a débarqué chez lui, je plaisante pas, il a été violé devant sa copine avec des objets par les policiers. Il est traîné au tribunal, il est accusé de terrorisme et de trahison. Pourquoi est-ce qu'il est allé dire ? Parce qu'il y a cette folie russe. La folie russe, elle n'est pas univoque. Ça peut être la folie vraiment détestable et haïssable de Poutine, et ça peut être aussi cet amour des idées où on va au bout. Et ça, je crois qu'on ne le voit pas assez.
Vous expliquez par ailleurs dans votre livre, Jean-François Colosimo, que tout ce qui se passe à l'est de l'Europe a un lien étroit avec ce qui se passe au Levant.
Oui.
C'est-à-dire ?
Bah, si vous voulez, il faut se rappeler, on a quand même, nous, oblitéré Byzance. D'ailleurs, le Louvre a finalement ouvert une salle byzantine 3 jours avant le début de la guerre d'Ukraine. Bon, c'est un truc, voilà, pourquoi ? Parce que, je veux dire, c'est très simple, il y a Athènes, Jérusalem, Rome, puis pour nous, ça passe par Aix-la-Chapelle, Charlemagne, et puis ça arrive à Bruxelles, au Parlement européen. Ben non, il y a toute une Europe pour laquelle ça passe par Constantinople, et ça aboutit à Moscou, pas forcément à la Moscou de Poutine. Donc, cette opposition, on ne veut pas l'avoir. On a nié Byzance. Mais Byzance, c'est l'Orient et l'Occident. Et Byzance, ben, c'est le Levant. Et c'est le Caucase. Alors, voyez, vous avez eu la guerre de Syrie, qui a précédé la guerre du Haut-Karabakh, et qui aboutit à la guerre d'Ukraine. Monsieur Erdogan...
Et après, vous êtes en train de nous dire qu'il va y avoir une forme de continuité ?
Non, c'est-à-dire que cette guerre, elle se rapproche de nous, parce qu'on n'a rien réglé de la question d'Orient, la fameuse question, vous savez, dont il faut être un spécialiste pour intégrer le Quai d'Orsay. Bah, il semble que ce soit une question à laquelle on ne sache plus apporter de réponse. On ne voit pas ce lien entre ces mosaïques de peuples que la chute du communisme, finalement... a rendu complètement libre. C'est-à-dire, on avait créé des nations, tracé des frontières, il y avait un chaudron de communautés, d'ethnies, de cultes en dessous. Bon, la fin du communisme fait que tout ce chaudron nous saute à la figure.
Est-ce qu'on ne veut pas le voir ? Est-ce qu'on ne le voit pas ? Parce qu'on ne veut pas le voir. Je parle, par exemple, de ce qui se passe actuellement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Je posais hier, à votre place, il y avait une ministre du gouvernement, et je lui ai posé la question. Évidemment, l'Europe sanctionne la Russie, parce que la Russie a violé la souveraineté ukrainienne. Et que fait-elle avec l'Azerbaïdjan ? Au lieu de sanctionner l'Azerbaïdjan, qui foule au pied la souveraineté arménienne, ben non, on lui achète du gaz.
Absolument. Absolument.
Comment on tient avec de tels principes à géométrie variable ?
Alors, je vais vous dire, pour moi, la principale nouvelle de la guerre d'Ukraine, évidemment, on a une pensée pour les Ukrainiens en souffrance, on a aussi une pensée pour les Russes courageux qui disent non à la guerre, etc. Bon, les Ukrainiens souffrent de manière délirante et injuste. Donc, véritablement, ces femmes, ces enfants qui courent sous les bombes. Mais une fois qu'on a dit ça, la nouvelle de cette guerre, c'est en fait l'isolement de l'Occident. C'est-à-dire que partout dans l'hémisphère sud, on n'aime pas Vladimir Poutine, on a de très mauvais souvenirs de l'Union soviétique, et on ne veut pas la guerre. Mais en attendant, on est content, même si Poutine n'est pas un personnage recommandable, que quelqu'un dise à l'Occident son hypocrisie. Vous voyez, parce que dans l'hémisphère sud, le souvenir, c'est la guerre d'Irak. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on a mis tellement de temps, nous, à penser que l'Ukraine allait vraiment être attaquée, parce que la dernière fois que les Américains nous avaient dit qu'il y avait un danger imminent, c'était pas vrai. Et je pense que, voyez, on voyait une coalition se monter. Vous avez Poutine, vous avez Erdogan, vous avez Xi Jinping, vous avez les Iraniens, toujours, qui ont reconstitué leur archite, c'est des reconstructions impériales sur fond religieux, et ils sont tous d'accord pour se mettre ensemble
le
contre nous.
Le grand retour des empires sur fond de fondamentalisme religieux.
Absolument, parce que ces empires, bah, ils ont essayé le marxisme, et puis finalement, il vaut mieux quand même promettre le paradis pour les martyrs qu'une stèle de reconnaissance au milieu du village, tu vois. Bon, et quand on creuse, en fait, ce sont des réflexes identitaires, quand on creuse, c'est comme... L'identité maximale, c'est l'identité religieuse, parce qu'elle est absolue, elle est exclusive, elle vous promet l'immortalité, enfin, pour armer, pour mobiliser, il n'y a rien de mieux. Mais je vous dis, tous ces tyrans, ils sont d'accord pour se mettre ensemble contre cet Occident qu'ils dénoncent comme hypocrite, décadent,
etc.
Et là, on a un véritable problème, c'est que l'Occident en question, il existe, mais c'est l'Amérique, c'est elle qui décide pour nous. Et c'est ça notre problème. Et c'est ça, véritablement, notre problème. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes en première ligne, on va prendre très très cher pour, finalement, une politique que nous aussi, nous subissons.
On vous écoute avec beaucoup d'attention avec Dimitri.
Ah oui, moi j'adore. On décentre notre regard, c'est passionnant. C'est passionnant. Merci de faire ça aux auditeurs
d'Europe 1. L'Occident n'est pas seul au monde. On rappelle le titre du livre, La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion en Europe chez Albin Michel. Et peut-être après la crucifixion, la résurrection.
Espérons-le, mais ça doit être aussi la résurrection des Russes aussi. Il faudra reconstruire l'Ukraine, mais réparer la Russie.
Ouais, la question qui se pose, c'est la crise qui couve en Russie, va-t-elle occulter la guerre en Ukraine? Merci Jean-François Colosimo. C'était vraiment passionnant. Merci d'avoir offert ça aux auditeurs d'Europe 1. Dans un instant, restez avec nous, Gaspard Proust.